Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Merci beaucoup, Marco. Donc, Eden, on est, c'est un sujet d'actualité très chaud, si je peux me permettre, puisque le dossier du port d'armes aux États-Unis, c'est toujours été un enjeu fort important, mais que peut-être ici, on pourrait... On voit d'une façon différente que nos voisins du Sud. Donc, qu'est-ce que le deuxième amendement, pour commencer?
Ben, dans le fond, le deuxième amendement, qu'est-ce qu'il dit? Là, je cite le texte, c'est une traduction, bien sûr, il est écrit en anglais, mais « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, virgule, ce serait important, là, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être engraissé. » Donc là, le texte a l'air simple, a l'air quand même assez clair, mais vraiment pas clair, dans le fond. Depuis l'adoption de ce texte-là, qui date de 1791 dans le Bill of Rights américain, là, qui est en gros les 10 premiers amendements de la Constitution, il y a eu un long débat à savoir si ça protégeait le droit individuel à porter des armes, ou tout simplement référait au droit des États, donc exemple la Californie, à se créer une milice étatique pour contrecarrer et avoir une certaine autonomie face au fédéral. Donc là, il y a un débat juridique qui a duré des centaines d'années, et vraiment, il y avait deux théorie qui s'opposait. Donc il y avait les défendants, ce qu'on appelle l'originalisme. En fait, ça c'est une théorie qui dit que la Constitution américaine doit s'interpréter telle qu'elle avait été écrite à l'époque. Donc on ne doit pas la faire évoluer, c'est un texte qui est mort. Et il y avait aussi à l'opposé ceux qui étaient fans de la théorie de l'arbre vivant. Dans la théorie de l'arbre vivant, ça dit qu'on doit faire évoluer la Constitution au gré des avancées sociales. Au Canada, c'est pas mal ça qu'on préconise. Là. On peut voir avec exemple l'avortement ou l'amitié à mourir, là, si c'est passé.
Si je peux te couper, excuse-moi, Hélène, pourquoi aux États-Unis c'est différent d'ici par rapport à la Constitution elle-même? Est-ce que c'est un enjeu de culture?
C'est un enjeu de culture, oui. Au Canada, on est beaucoup plus progressiste qu'aux États-Unis, puis on est beaucoup moins attaché à notre texte constitutionnel. La tradition britannique est plus importante au Canada, puis en Grande-Bretagne, ils n'ont pas de Constitution, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, on peut voir ici la différence.
Oui, mais tu parlais des deux approches juridiques, dans le fond, qui étaient principalement, dans le fond, utilisées. Est-ce qu'on peut camper des juges dans certaines approches, comme exemple des juges plus conservateurs ou des juges plus progressistes dans certaines approches?
Oui, ben c'est pas 100% des conservateurs qui sont d'un côté et progressistes de l'autre, mais généralement, les conservateurs sont plus originalistes, puis les progressistes sont plus des évolutionnistes. Ça reste aussi qu'avec l'approche-là, il faut aussi voir qu'il y a deux façons de checker un texte juridique. Donc, on peut être de manière grammaticale, c'est-à-dire qu'on texte, on regarde le libellé, donc qu'est-ce qui est écrit, puis on essaie d'interpréter avec le sens évident, donc le sens qui reste supposé. Ou on peut être de manière téléologique, là, c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut dire, dans le fond, qu'on veut checker l'intention derrière le texte. Donc, on veut checker les débats, on veut checker c'était quoi le problème que le législateur voulait contrecarrer avec le texte.
Puis, avec le deuxième amendement de 1791, il y a déjà eu des décisions de la Cour suprême qui ont été prises en lien avec ça.
Ouais, la décision la plus importante qui fait force de droit en ce moment, là, c'est District of Columbia contre Heller. Ça date de 2008. Puis, dans le fond, le District of Columbia, pour ceux qui ne savent pas, c'est Washington, D.C., là, c'est la ville de Washington. Puis, eux, ils avaient fait une loi assez sévère sur les armes à feu, là, qui empêchait les armes à feu dans les maisons pratiquement au complet. Là. Et bon, ça a été jugé inconstitutionnel. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le fond, ce qu'a fait la Cour suprême dans une décision extrêmement serrée, là, 5 juges contre 4, ils ont décidé que la virgule que j'ai mentionnée au début séparait le texte en deux. Et que la première partie qui parlait des États était seulement un préambule. Et la seconde partie était vraiment la clause opératoire. Ce qui faisait en sorte que le préambule ne pouvait pas limiter la clause opératoire. Ce qui voulait donc dire, selon eux, que le droit était individuel. Donc, il y a vraiment été d'une approche qui est grammaticale, qui est originaliste. Ils ont aussi été voir les interprétations que les gens faisaient à l'époque pour voir comment les gens interprétaient. Puis, ils ont décidé ça.
Parfait. Évidemment, la tuerie qui a lieu à Old Valley la semaine passée relance le débat, justement, du deuxième amendement aux États-Unis. Qu'en est-il de l'opinion publique concernant la part des armes?
Ben, faut dire que les Américains sont assez attachés à ce droit-là, généralement. Là. En 2008, juste après la décision que je viens de mentionner, un sondage disait que 73% des Américains étaient d'accord avec la décision qui disait que le port d'armes est un droit individuel. Donc, ce qui démontre à quel point c'est dans leur culture des droits, c'est vraiment imbriqué. Un peu à l'image du droit à l'avortement au Québec. On sait ici, on a un large consensus sur l'avortement qui est vraiment unique en Amérique du Nord. C'est un peu la même chose avec le droit du port d'armes. Ça reste que il y a beaucoup de gens qui ont remis en question ça quand même. Aujourd'hui, on voit que l'opinion générale évolue un peu. Selon un sondage Gallup de 2021, 52% des Américains voudraient des lois sur les armes plus sévères qu'actuellement, contre 35% qui préfèrent le statu quo et seulement 11% qui veulent des lois moins restrictives. Donc là, on voit ça évolue. Puis, encore plus, plus récemment, là, le jour suivant la malheureuse tragédie, là, soit le 25 mai, 98% d'Américains est en faveur d'obliger la vérification des antécédents. Ça, on appelle ça le Universal Background Check, avant toute vente de fusil. Dans le fond, là, ça, c'est juste qu'on fait des, on regarde si les gens sont aptes à avoir des fusils. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent le basketball, l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, avait dit 80% des Américains sont pour ça. Ben, il avait raison. C'est vraiment ce que les études disent depuis un moment.
Lorsque Steve Kerr s'était ouvert le cœur à la... en vue de son match, le quatrième match de son équipe, il s'était levé le cœur. Il avait mentionné d'un monologue assez fort et tranché. On va arrêter de parler de basket. Des enfants meurent ici. Puis moi, je suis tanné de m'excuser à tout le monde de présenter mes sympathies à chaque fois qu'il y a une tuerie de ce genre-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il a pointé du doigt M. O'Connell au Sénat américain? Donc, ça a été vraiment un très beau monologue. Donc, tu fais bien de le mentionner. Steve Kerr avait raison,
oui.
Évidemment.
De ce que je comprends, Aiden, évidemment, l'opinion publique change avec le temps, mais les lois ne changent pas.
Ben non, en fait, parce que l'opinion publique, ça ne fait pas le droit. Il faut faire des lois. Donc, il y a des lois qui ont été passées là, en ce sens. La loi Brady, on l'appelle le Brady Bill aux États-Unis, en l'honneur de M. James Brady, là, c'est un attaché de presse de Ronald Reagan, qui avait été touché par une tentative d'assassinat et qui était devenu handicapé à cause de ça. Donc, elle mettait des background checks, qu'on dit. Mais malheureusement, ces background checks n'étaient pas universels. Une partie de la loi a été amputée par la Cour suprême. Depuis tant long, on a essayé de faire des propositions. En ce moment, il y en a deux qui ont passé la Chambre des représentants. The Bipartisan Background Check Act of 2021 et Enhanced Background Check Act of 2021. Mais malheureusement, le Sénat bloque actuellement ça, malgré la majorité démocrate. Simplement parce qu'il y a aux États-Unis un système qui s'appelle le filibuster. Donc le filibuster, dans le fond, c'est une espèce de manière pour les sénateurs de faire des gros discours fleuves pendant les débats pour entraver la poursuite et le processus d'adoption d'une loi. Et ces débats-là peuvent juste être clôturés par un vote de 60 sénateurs sur 100. Ce qui veut dire, en gros, que les projets peuvent juste être adoptés par 60 sénateurs sur 100, ce que les démocrates n'ont pas, ils n'ont pas de majorité assez suffisante. Donc, pour l'instant, le Sénat est bloqué là-dessus.
Parfait. Aiden, merci beaucoup d'avoir décortiqué, dans le fond, le deuxième amendement et son histoire avec nous. Je crois que nos auditeurs ont appris des choses avec ce qui a été mentionné dans les dernières minutes. Nous-mêmes aussi, on a appris des choses. Je te remercie de ton temps.
Oui, merci à vous, les gars.